Je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Philippe Picasso.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Situation sécuritaire au Nord Kivu. La force internationale neutre sera constituée des 4000 hommes. C'est une décision prise à l'issue de la réunion vendredi dernier du comité des ministres de la défense des pays membres de la CIRGL. Cette force sera déployée à Beni, Rwenzori, Rutshuru, Walikale et Masisi en RDC. Quelle analyse faire des conclusions issues de cette réunion? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 20 août 2012. Je reçois dans ce studio pour le débat Jean-Pierre Kambila. Il est conseiller politique du chef de l'État et cadre du parti politique PPRD. Monsieur Kambila, bonsoir.
Bonsoir madame et merci pour l'invitation.
Je vous en prie, maître Juvenal Mounoubo Moubi, député national et rapporteur de la sous-commission Force armée au sein de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Il est cadre du parti politique de l'opposition Union pour la Nation Congolaise, UNC. Honorable Juvenal Mounoubo, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs.
Et le professeur Philippe Bioya, politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Professeur Bioya, bonsoir.
Bonsoir madame.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Charles Mwenga de Goma au Nord Kivu. C'est un processus de longue haleine qui ne fait que permettre au M23 de se réorganiser. Le Rwanda fait tout pour distraire la RDC dans des processus qui ne font que donner du temps au M23 de recevoir un équipement sophistiqué. À la reprise des combats, les FRDC risqueront de faire face à une force musclée plus rude que celle qu'elles ont connue au début des combats. Jean-Marie Bitangila de Dungu dans la province orientale. Ma question est celle de savoir pourquoi ce déploiement doit se faire seulement sur les territoires congolais alors que c'était prévu que cette force se déploie entre le Rwanda et la RDC. Bientôt la rentrée scolaire. Quel est le sort des enfants congolais en déplacement causé par le M23? Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez peut-être, la force internationale neutre pour éradiquer l'insécurité dans l'est de la RDC devra être dotée d'un mandat de l'Union africaine et des Nations unies. La taille, la composition et la répartition géographique de cette force ont été également définies. C'est à l'issue de la réunion du sous-comité des ministres de la défense des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle, réunion tenue jeudi dernier à Goma. Le point avec vous, Gisèle Cage.
La force internationale neutre sera composée des troupes des pays africains sans le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda ni la RDC. La structure, la configuration et les zones de déploiement de la force, y compris le besoin opérationnel, administratif et logistique, seront déterminés très prochainement par l'équipe militaire d'évaluation. Toutefois, la taille de cette force ainsi que le principal zone de déploiement sont connues. Des précisions du ministre congolais de la Défense, Alexandre Lubantambo.
Nous avons envisagé que 4000 hommes suffiraient. En ce qui concerne les détails, il y aura une commission qui va donner la structure, les zones de déploiement, et bien que nous ayons déterminé déjà 4 zones principales de déploiement. Beni, Rwenzori, Walikale, Masisi.
Il a été également convenu que le président en exercice de la conférence internationale des pays de la région de Grand Lac instruise le M23 d'arrêter immédiatement toute activité militaire et de retourner dans ses positions initiales, dont Runyoni, dans le Rutshuru. Le sous-comité des ministres de la défense de la CIRGL devra soumettre son rapport intérimaire au président en exercice de la CIRGL au plus tard le 22 août prochain. La réunion de Goma avait pour objectif d'arrêter des actions urgentes pour que le combat cesse dans l'est de la RDC. Goma, Gisèle Cage, Radio Capi.
Merci Gisèle Cage. Jean-Pierre Kambila, je rappelle que vous êtes conseiller politique du chef de l'État et cadre du PPRD. Comment oui, citoyens congolais, comme vous voulez. Et comment vous analysez les conclusions de cette réunion des ministres de la Défense des pays membres de la CIRGL? 4000 hommes, est-ce suffisant pour combattre tous ces groupes armés qui opèrent à l'est de la RDC?
Je pense que c'est suffisant, c'est largement suffisant. Mais en fait, nous répondrons plus aisément à cette question à la fin. Parce que nous sommes dans une situation de guerre. Une situation de guerre, elle est dynamique, elle évolue. Et c'est par rapport aux réalités du terrain que l'on peut véritablement réagir. Mais si je devais réagir rapidement par rapport à ce que je viens d'entendre, des réactions de nos compatriotes, et aujourd'hui dans la, ici à Kinshasa c'était pratiquement la même chose, hein. Les gens se posent la question de savoir pourquoi cette force qui était censée se déployer à la frontière rwando-congolaise, pourquoi elle va se déployer à l'intérieur
de la RDC,
de la RDC. Je comprends bien ça. Notre objectif, l'objectif de la République démocratique du Congo, c'est que ces fouteurs de guerre, excusez-moi l'expression un peu familière, foutent le camp. Voilà notre objectif. Nous voulons que ces gens partent.
Donc, et vous allez les combattre problème, de l'intérieur alors que la frontière va rester ouverte, les entrées seront faciles, non?
Non, ça c'est lorsqu'on voit la chose d'une manière statique. La guerre, c'est quelque chose qui bouge. Et la première action de la guerre, c'est toujours une action dissuasive. Lorsqu'on dit, on va mettre devant vous 4000 hommes, bien armés et bien organisés, c'est surtout...
Est-ce qu'ils connaissent la région? C'est aussi un problème.
Non, ça c'est une autre question. D'abord, lorsqu'on annonce ceci, c'est surtout pour que ces va-t-en-guerre, ces bandits, comprennent qu'il y a une force qui arrive et qu'ils partent. C'est d'abord ça. Cette information est déjà un acte de guerre. Cette information a pour but de les convaincre de partir. Et s'ils peuvent partir sans que le sang coule, c'est l'intérêt de tous. C'est d'abord ça. S'ils ne partent pas, bien sûr qu'il y aura la guerre, bien sûr qu'il y aura des morts, ce qui est regrettable. Mais la première chose, c'est celle-là. La deuxième, il faut quand même que l'on comprenne que vous n'allez pas aller déployer les militaires à l'endroit où il y a l'ennemi. Même si je ne suis pas militaire, ça me paraît de bon sens. Vous mettez l'armée qui va attaquer, en position d'attaquer, dans les endroits où ils peuvent s'organiser, prendre des décisions et démarrer. Vous n'allez pas prendre l'armée et vous la jeter là où il y a où il y a l'ennemi tout de suite. Ça n'aurait pas de sens. Le bon sens même nous conduit à éviter ce genre de questions.
Et pendant que cette force neutre, cette force internationale neutre va s'interposer entre les rebelles et les FRDC, quel sera le travail de nos militaires?
Bon, déjà, la force ne s'interpose pas entre nous et eux. La force, elle est là pour chasser ces gens-là. Il faut pas confondre les choses. On ne vient pas s'interposer entre nous et les rebelles. Non, c'est pas ça. La force, elle est là pour chasser l'ennemi et empêcher à ce que d'autres rentrent ou que d'autres de chez nous aillent au Rwanda. Parce que le Rwanda prétend, ce qui est faux, mais enfin, c'est quand même ce qu'ils disent, il prétend que nous entretenons les FDLR qui vont faire des troubles chez eux. Donc voilà, si vous voulez, le sens de cette force-là. Alors, donc, la force, elle n'est pas là pour se mettre entre nous et eux, elle est là pour nous aider à les foutre dehors. Alors, si ces gens peuvent comprendre, avant qu'il y ait un seul coup de fusil, que vaut mieux arrêter tout de suite et que l'on fasse l'économie du sang humain, je crois que c'est mieux. Ça serait beaucoup, beaucoup mieux. Et je pense d'ailleurs que c'est le sens du communiqué que nous avons eu.
Alors, dans ce communiqué, on demande aux rebelles, aux M23, de reprendre leur position initiale. Ça veut dire quoi? On cherche à les chasser ou on cherche à les entretenir dans leur position initiale ou dans les localités ou villes qu'ils occupent déjà?
Madame, il y a certainement de vos auditeurs qui ont une certaine expérience de l'évolution des guerres, n'est-ce pas? Oui, je ne pense pas que on va mettre une force qui est définie comme étant une force qui va chasser les gens et puis leur dire on vous met là pour vous laisser là tranquille. Non, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais j'essaie de vous faire comprendre et de faire comprendre à nos éditeurs que l'étape présente, c'est une étape de dissuasion, de faire comprendre à ces gens-là qui n'ont aucun avenir en République démocratique du Congo tant qu'ils ont les armes dans les mains.
Merci Jean-Pierre Kambila. Je veux vous redonner la parole tout à l'heure. Maître Juvenal Mounoubo, vous êtes député national et rapporteur de la sous-commission Force armée au sein de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes cadre de l'UNT, c'est un parti politique de l'opposition. Comment vous analysez les décisions issues de cette réunion des ministres de la Défense des pays membres de la CIRGL?
Avant d'analyser ces décisions, je voudrais tout d'abord souligner que la crise à l'Est est de double dimension. Il y a une dimension interne, raison pour laquelle il y a des groupes locaux, des groupes armés, des Maïmaï. Ça a aussi une dimension externe, raison pour laquelle il y a l'M23 appuyé par les Rwanda et les FDLR. Et donc la solution d'une force internationale neutre, en termes d'idées, c'est une idée soutenable. Mais là où nous ne nous mettons pas d'accord, c'est dans les modalités de mise en œuvre, les modalités d'application. Pourquoi? Parce que j'ai des inquiétudes à ce niveau ici. Par rapport au déploiement, les déploiements dans les territoires de Walikale, dans les territoires de Masisi, à Beni, à Rwenzori, vous remarquez ici que, contrairement aux objectifs fixés au départ, qui étaient de contrôler, de sécuriser la frontière commune entre le Congo, la RDC, l'Ouganda et le Rwanda. Ici, les déploiements, par exemple, à Walikale et Masisi, c'est loin de la frontière. Je vous informe que Walikale, c'est à plus ou moins 250 kilomètres à l'ouest de Goma. C'est pratiquement entre Goma et Kisangani. Donc, je ne vois pas, à partir de Walikale, comment cette force internationale neutre va surveiller les frontières. Et vous voyez que la frontière entre le Congo et le Rwanda, la force ne sera pas déployée, du moins ce qui a été annoncé par le ministre de la Défense, mais le déploiement va se faire plutôt dans la partie nord, à Rwenzori et à Beni. Donc là où se trouve la M23, la force ne sera pas déployée. C'est une inquiétude.
On a suivi M. Kambila qui a dit qu'on ne peut pas aller emmener ces troupes-là là où il y a l'ennemi. Il faut leur donner le temps de s'organiser avant d'aller attaquer l'ennemi.
Et pour cela, il faut aller à 250 kilomètres loin de l'ennemi. Je me pose la question. Moi, je pense que le déploiement devrait se faire à Rutshuru. La proposition du déploiement, parce qu'on n'est pas encore au déploiement. Ça devrait se faire à Rutshuru. Ou alors, à la porte de Goma, vers Kibumba déjà, ils devraient se déployer là-bas. Parce que c'est là où ils vont faire face directement au M23. Donc, la crainte des auditeurs, comme celle de M. Charles, de consacrer finalement une situation de statu quo où le M23 sera en train de s'organiser, c'est ça les risques. Même si le conseiller Kambila n'accepte pas que nous cheminons lentement mais sûrement vers une force d'interposition et une situation de statu quo, mais je crois que si on ne corrige pas les modalités de déploiement, c'est vraiment cette situation à laquelle nous allons cheminer.
4000 hommes, c'est suffisant pour démanteler tous ces groupes armés qui opèrent à l'Est?
Même si c'était plus de 4000 hommes, en tout cas, ça ne serait pas suffisant. Nous savons que la MONUSCO, par exemple, en a plus de 17 000. Nous devons savoir que la solution, elle doit être aussi interne. Il faut renforcer les capacités opérationnelles de nos forces armées. Raison pour laquelle ma formation politique, depuis longtemps, a toujours soutenu l'idée de la réforme des FRDC. Il faut appuyer la réforme des FRDC. Il faut corriger toutes ces faiblesses qu'il y a au sein de nos forces armées. Raison pour laquelle l'opposition a sollicité à demander à ce qu'un débat national sur la sécurité, un débat sincère, ouvert, où on examinera la question sécuritaire en profondeur, où peut-être on passera en revue aussi ces processus de pacification à l'Est, parce que c'est chaque fois des guerres, c'est comme dans une sorte de génération spontanée. Tous les trois ans, on est dans une nouvelle guerre, ce n'est pas normal. Les populations ont tant souffert. Il faut avoir pitié de ces populations.
Alors, vous êtes rapporteur de la sous-commission Force armée au sein de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée, quelle démarche vous menez par rapport à cette situation qui se vit à l'Est?
La question est examinée au sein de la commission Défense et Sécurité, mais aussi il faut savoir que les députés élus au Nord Kivu dans le cadre du caucus ont levé le ton à la clôture de la session extraordinaire de juin, où nous avons condamné la guerre à l'Est, nous avons condamné les soutiens qu'apporte le Rwanda au M23, nous avons demandé à ce qu'il y ait changement le plus rapidement possible dans la chaîne des commandements. Parce que c'est à ce niveau-là que se situe le problème. Lorsqu'il y a des militaires qui ne reçoivent pas leur solde, lorsqu'il y a des militaires qui manquent même à manger. Vous savez, madame, il y a des choses qu'on ne devrait pas négocier à manger lorsqu'on est en campagne. Dans toutes les armées du monde, lorsque les militaires sont en campagne, en tout cas, ils ne sollicitent pas à manger. Donc, il y a des faiblesses au sein de notre système de défense. Je ne dis pas que c'est aujourd'hui que nous allons réformer l'armée, mais au moins un débat sincère, ouvert, qui mettrait sur une table, autour d'une table, le gouvernement, l'opposition, la société civile et peut-être l'assistance de la communauté internationale, eh bien, on passerait en revue toutes ces faiblesses et pour s'assurer d'une victoire militaire. Parce qu'à l'allure où vont les choses, eh bien, la victoire militaire n'est pas certaine.
Alors, on va prendre rapidement une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Aimé Chirinda de Bukavu au sud Kivu. Le déploiement de 4000 hommes pour combattre le M23 est insuffisant, car je ne suis pas sûr que ces hommes peuvent faire face aux Mai Mai, aux FDLR et aux M23, sans oublier qu'avant que cette troupe n'arrive, les ennemis seront en train de s'organiser et de se renforcer.
Alors, cet auditeur aborde un peu dans le même sens que vous.
Oui, pourquoi? Parce que c'est finalement une force qui sera sur combien de fronts? Trois fronts. Il y a les fronts M23, il y a les fronts FDLR, il y a les fronts groupes armés locaux. Et il y en a beaucoup, c'est foison. Si je peux même permettre de le citer, il y en a beaucoup. Les Mai Mai Raia Mutomboki, les Mai Mai, etc.
Il y en a tellement beaucoup,
je ne saurais pas
le temps
citer.
De les citer tous.
Voilà. Je pense que même les 4000 hommes dont on parle n'est pas suffisant. Il faut coupler toutes ces démarches sur le plan international par des efforts qu'il faut faire sur le plan interne.
Merci Maître Juvenal Mounoubo, professeur Philippe Bioya. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Quel est votre point de vue par rapport aux décisions prises à la réunion des ministres de la Défense des pays membres de la CIRGL?
Bon, ma première réaction, c'est, je ne vais pas m'étonner, mais c'est un peu, je suis un peu perdu là, parce que je veux savoir si le gouvernement a changé d'approche, d'analyse de la situation. Parce que du point de vue de la région de Grand Lac, je ne suis pas étonné. Parce que la région de Grand Lac, du point de vue des analystes de géopolitique, c'est une région qui se définit, qui se caractérise par la guerre. C'est que la guerre, si la guerre disparaît, la région de Grand Lac devrait disparaître aussi, parce que les pays de Grand Lac, ils vivent par la guerre. Cette décision, ces mesures qui ont été prises, montrent clairement que dans la région de Grand Lac, la Sirgil n'est pas dans le dossier de l'agression du Rwanda contre la RDC. Le Grand Lac est dans un dossier qui est en fait le dossier pro-rwandais, qui est celui de la lutte contre, en fait, le FDLR. Et j'ai comme l'impression que c'est cet agenda rwandais qui a triomphé. C'est-à-dire, on va déployer des forces, certainement qui ne seront pas déployées, parce que cette force ne sera pas neutre d'abord. Parce que la neutralité, ça ne c'est pas par rapport, en fait, à la menace. Je crois que la neutralité, telle qu'on l'a définie là-bas, le Grand Lac, c'est par rapport aux parties belligérantes. Le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda ne seront pas dans la force, mais le Rwanda et le Burundi ont, dans la région du Grand Lac et en Afrique, des pays amis. Et chacun cherchera à mettre ses amis dans cette force.
Tout comme la
RDC doit avoir aussi des pays amis. Alors, or, je peux penser que le premier pays ami de la RDC, c'est l'Angola. Le deuxième, c'est peut-être le Congo, qui sont membres de la Sirgil. Or, à chaque fois qu'on a parlé de l'Angola dans ces affaires, ceux qui soutiennent le Rwanda disent non, 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 ça va régionaliser. C'est que cette force, en fait, je crois, elle n'aura pas lieu si elle est déployée pour résoudre le problème de la RDC. Alors, j'ai dit que j'étais un peu embarrassé à partir du moment où notre ministre de la Défense a certainement agi au nom du gouvernement. Alors, je ne sais pas comment le gouvernement comprend qu'on doit toujours continuer à travailler pour que des guerres aient lieu sur notre territoire. Parce que le principe d'une force internationale, qu'on appelle même l'interposition, c'est qu'on renonce à la guerre. Et je crois que Kambila a dit qu'on ne va pas déployer les gens là où il y a la guerre. Non, on ne peut pas déployer de force quand il y a la guerre. Pour qu'on déploie la force, il faut d'abord cesser le feu. Alors, mais il y a cessé le feu si la guerre est entre deux pays. Mais si c'est une rébellion à l'interne, je crois que pour peu que dans la Sirgile, la RDC soit un État souverain, les pays de la Sirgile doivent d'abord se mettre en peine de ce que la souveraineté de la RDC est menacée et ne doit pas continuer à ce qu'on fasse des guerres sur le territoire congolais, qui sont des guerres du Rwanda, des guerres de l'Ouganda. Nous disons toujours ça, mais je ne comprends pas pourquoi le gouvernement pense que pour sa propre sécurité, il faut que le pays Congo soit un territoire de guerre tous les jours, toutes les années, parce que les gens veulent faire des guerres contre leurs propres citoyens sur le territoire congolais, avec des soldats congolais, avec le moyen du Congo. Je crois que c'est nous-mêmes qui nous condamnons. Ils ne veulent pas nous plaindre. Et donc, parce que nous acceptons nous-mêmes que le Congo n'est plus en fait un espace de paix, un espace d'économie d'avenir, c'est un espace de guerre. Et des guerres des autres, parce que dans ça, il n'y a aucune guerre congolaise là-bas.
Alors, professeur Philippe Bioya, est-ce qu'il faut comprendre par là que vous n'êtes, cette force internationale neutre n'est pas une solution au problème que connaît la RDC aujourd'hui?
La proposition faite par la Sûreté, je pense que le gouvernement congolais doit considérer ça comme en fait une solution. C'est même pas une solution. C'est-à-dire qu'on reconnaît à la Sûreté le droit de penser ce qu'il peut penser. Mais l'avenir de sécurité de la RDC, c'est certainement d'autres instances, soit de l'Union africaine, soit de les Nations unies, où la question a été posée. Mais pour y arriver, je crois qu'il y a un ensemble de démarches qu'il convient en fait de mener pour que l'on obtienne que la région du Grand Lac devienne en fait une région de paix. Et qu'une force de paix, en ce jour d'aujourd'hui, doit être une force qui doit permettre à la RDC de résoudre, en fait, son problème si on estime que le M23, c'est une opposition interne. Parce que c'est en fait ça, comme ça qu'il faut comprendre ça du point de vue de la Sûreté. Mais la solidarité doit être en faveur du gouvernement. Mais là, nous avons une solidarité contre le gouvernement, mais avec la caution du gouvernement. À moins qu'elle ne comprenne pas ce que l'on veut faire.
Alors, on prend pour vous, professeur Philippe Bioya, cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile à partir de Kinshasa. Peut-on savoir d'où pourra provenir le financement de cette force dite neutre? La dite force neutre va-t-elle s'interposer entre quelle force? M23 et l'armée congolaise? Nous croyons qu'il faut renforcer le mandat de la MONUSCO avec la nouvelle donne. Nous pensons que cette énième agression vient consacrer l'échec de la réforme de l'armée, la police et l'appareil judiciaire congolais. Il faut travailler beaucoup sur le plan interne à cette réforme sans complaisance. Autre chose, la question de la gestion des complices congolais impliqués dans la guerre reste une épine dans le pied. Comment compte-t-il s'en sortir et que pensent les intervenants?
Professeur Philippe Bioya.
Non, je pense pas qu'on doit conditionner tout à la, on va pas faire, pendant qu'on fait la guerre, on fait pas de réforme. Nous devons savoir ce que nous voulons. Le problème n'est pas dans la réforme de l'armée. Le problème est effectivement dans les déséquilibres qu'il y a dans la façon de traiter des problèmes qui se posent à RDC. C'est-à-dire, ce que l'on doit souhaiter dans un premier temps, si réellement on veut la paix dans la région de Grand Lac, qu'on obtienne que l'Ouganda, que le Rwanda, que la RDC, que le Burundi, travaille effectivement à mettre en place un système de paix. Or, ces différents régimes ici-là, ce sont des régimes qui utilisent toute la guerre pour justifier leur survie politique. Tout le monde trouve dans la guerre l'occasion de justifier soit qu'il ne fait pas le développement, soit qu'il ne construit pas ceci, ne fait pas ceci. Alors, je crois qu'on doit sortir du piège de la guerre. De deux, je pense que ce que nous devons retenir, en fait, de ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas une solidarité à permettre à la RDC de donner ce qu'ils veulent que la RDC donne. Parce que le financement de cette force va se faire avec quoi? Avec les ressources de la RDC, parce que les zones qui sont dégagées là, on est en train de faire la guerre, parce que la guerre à l'Est, c'est une guerre qui n'est pas seulement politique, c'est une guerre qui est avant tout économique et commerciale.
Merci, professeur.
Alors, c'est avec les ressources du Congo qu'on financera cela. Mais je vous dis que j'ai l'impression que ça ne va certainement pas se faire parce que personne ne veut effectivement qu'il y ait la paix.
Merci professeur Philippe Bioya. Les auditeurs sont très nombreux à nous envoyer leurs réactions. Ben Alex Lukusa de Lubumbashi dit ceci. Quelles sont les mesures préventives pour que cette force ne puisse pas achever le pillage de nos ressources minérales et parachever les exactions contre cette population déjà suffisamment meurtrie? Kani Lubango de Goma au Nord Kivu, sur base de quoi cette estimation des 4000 hommes a été faite? Ont-ils regardé sur la carte? C'est quoi la moyenne par territoire? Quelle sera la relation cohabitation entre cette force et la MONUSCO? Maître Urbain Kokolo de Bouille en province orientale, personnellement, je crois que déployer une force neutre, c'est s'attaquer aux effets plutôt qu'aux causes. La restructuration de notre armée et son renforcement en capacité financière matérielle et humaine, matérielle et humaine doivent vraiment être une priorité car rien ne pourra marcher à l'Est tant que notre armée restera aussi faible. Monsieur Kabila, en écoutant les réactions de ses auditeurs et même des autres intervenants, on reste quand même assez sceptique hein, quant à la réalisation même de ce projet ou de cette ambition de la CIRGL.
C'est ce que je m'en rends compte, mais ma réaction, c'est de dire qu'un pays ne peut pas vivre, survivre dans la situation internationale qui est la nôtre, ici en Afrique centrale, si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, si nous ne nous mettons pas un minimum de confiance en nous-mêmes, si tout pas qui est posé ne répond qu'en substance. Regardez, j'ai beaucoup d'admiration pour le professeur Bioya. Mais lorsqu'il dit, la guerre est l'élément qui fait vivre le gouvernement dans la région des Grands Lacs. Bien, magnifique. Fait vivre quel gouvernement et comment? Quel est l'intérêt du gouvernement de Kinshasa à ce qui est la guerre à l'Est? Parce que c'est une guerre qui vise à déstabiliser le pays et à faire tomber ce même gouvernement. Je ne comprends pas cette logique-là. S'il y a des gens qui veulent profiter de la guerre, c'est ceux qui viennent l'imposer, parce qu'ils ont des intérêts. Et ici, la question est très claire. Nous connaissons l'intérêt du Rwanda. Puisqu'ils l'ont dit, ils le disent clairement. Pourquoi? Pourquoi se le cacher? Le Rwanda veut une partie de notre territoire. Est-ce que nous voulons laisser ce territoire au Rwanda? Non. Ça, c'est clair. Voilà pourquoi nous nous battons. Et nous n'avons aucun intérêt à ce qu'il y ait la guerre, parce que la République démocratique du Congo ne revendique aucun centimètre carré d'un territoire qui est situé en dehors du nôtre. Ça, je crois que c'est vraiment l'essentiel. Et il faut aussi dire une chose, n'est-ce pas? Vous savez, la guerre, c'est une suite d'opérations qui vise un objectif défini. Ne pensez pas que lors d'une conférence, quand vous êtes dans une conférence, c'est là où tout se décide. Non. Les conférences sont généralement le reflet des rapports de force sur le terrain. Donc, aujourd'hui, j'adhère complètement à ce qu'a dit l'honorable député tout à l'heure, que l'essentiel pour nous, c'est de nous préparer militairement, de mieux nous organiser, pour foutre l'ennemi dehors, parce que c'est là où il y a le risque. Mais nous n'allons pas nous réorganiser en nous décourageant, en mettant le soupçon là où il n'existe pas. Si nous passons le temps à dire à travers les radios, les télévisions, les journaux, que chez nous, les officiers ne font que voler, ils font crever les jeunes gens de faim, ils font ceci, ils organisent rien. Mais comment voulez-vous que ceux qui donnent leur sang pour vous se sentent requinqués et aillent se battre? Si derrière, vous êtes en train de tenir que un discours de découragement, comment voulez-vous donner l'espoir à ceux qui se battent? Non, il ne s'agit pas de ça. Les Congolais doivent comprendre qu'ils ont un ennemi qui veut leur prendre la chose la plus essentielle qu'ils ont, c'est-à-dire leur terre. Et pour ça, il n'y a qu'un seul langage, c'est le langage de la mobilisation. Et les traîtres, ils vont mériter le châtiment de la traîtrise. Les lâches, ils vont mériter le sentiment de la lâcheté. Aujourd'hui, nous n'avons pas une autre question. Et là aussi, pour terminer, madame, juste une seconde. Moi, je ne confonds pas les Maïmaï avec notre ennemi. Ceux qui demandent leur terre, ils ont qu'à maintenant venir dans l'armée pour donner la force à l'armée nationale et qu'on foute l'ennemi dehors. Et c'est ces gens-là qui nous font perdre le temps sur le chemin du développement.
Merci Monsieur Kambila. La force internationale neutre devrait se trouver sous le mandat de l'Union africaine et des Nations unies. Affirmation ce lundi à Kinshasa du ministre congolais des Affaires étrangères à l'issue d'une rencontre avec le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères. Raymond Tshibanda a focalisé son intervention sur la position du Rwanda face à la mise en place d'une force internationale neutre. Pour Raymond Tshibanda, le Rwanda a bel et bien approuvé lors du sommet de Kampala la mise en place, la mise sur pied de cette force. On l'écoute au micro de Michel Kifinda.
La décision de mettre en place la force internationale neutre a été prise par l'ensemble des États de la région, avec la signature de tous les chefs d'État, dont celui du Rwanda. Cette force devrait se trouver sous le mandat de l'Union africaine et des Nations unies. Il n'est pas possible de dire la MONUSCO ne va pas être impliquée, parce que la MONUSCO est le produit des Nations unies, et c'est la MONUSCO qui symbolise la présence des Nations unies sur le terrain. Pour que cela se fasse, il va falloir que le Conseil de sécurité des Nations unies prenne une résolution élargissant le mandat de la MONUSCO et renforçant ce mandat de la MONUSCO. Et là-dessus, nous sommes tous d'accord au niveau de la région.
Maître Juvenal Mounoubo, la MONUSCO doit être impliquée dans ces opérations, selon le ministre des Affaires étrangères congolais, alors qu'on sait que le Rwanda est contre l'implication de la MONUSCO dans ces opérations pour chasser les rebelles M23. Est-ce que ça ne risque pas d'être un autre blocage?
Je crois que l'implication de la MONUSCO ne devrait pas dépendre d'un quitus du Rwanda. Pourquoi? Parce que la MONUSCO est ici pour la protection de populations civiles. Cela s'entend. Donc, on n'a pas besoin de demander, à mon sens, un accord du Rwanda, exprès ou tacite, pour que la MONUSCO protège les civils. Ce que nous voulons que la MONUSCO fasse, et le fasse davantage, c'est la protection de civils. Là où il y a les faiblesses des FARDC, là où il y a l'absence de l'administration, là où la police n'existait pas, et s'il y a des exactions sur des populations civiles, nous voulons voir la MONUSCO être beaucoup plus dynamique. Et pour cela, on n'a pas besoin, en tout cas, de demander l'autorisation ou l'avis du Rwanda ou d'un autre pays de la sous-région.
Et vous estimez que ça ne va pas poser problème?
Je pense qu'il y a une autre question qu'il faut régler. Vous avez raison, la coordination sur terrain. Ça sera finalement deux forces internationales sur terrain. Il y a la MONUSCO, dont la taille est sans doute plus grande que celle-là, parce que pour la force internationale neutre, on annonce déjà 4000. Il faut qu'on sache comment la coordination sera faite sur terrain. Est-ce qu'il n'y aura pas chevauchement? Tout ça, les experts devraient étudier toutes ces questions. Mais il y a des questions sur lesquelles je ne pourrais pas, en tout cas, me taire. On dit que le Congo ne participera pas dans la force pour préserver le caractère neutre. Je ne pense pas que la préservation du caractère neutre va à l'encontre des principes de souveraineté d'un État. La défense de la patrie, ça fait partie des tâches régaliennes. Ce n'est pas puisque une force internationale, neutre ou pas neutre, vient au Congo, neutre comme cela a été annoncé, que l'on va empêcher au FARDC de participer dans les opérations. Les forces armées congolaises, c'est ça le premier rempart au Congo. Et je ne vois pas les raisons d'empêcher au FARDC. Ce sont les FARDC qui sont censés d'ailleurs maîtriser, connaître bien le terrain, nos frères africains qui vont venir nous aider. Donc exclure les FARDC, peut-être puisque le Rwanda l'a voulu ainsi, eh bien moi je me pose des questions. Moi je ne vois pas qu'est-ce qui a motivé qu'on extrait la RDC dans la proposition. La RDC devrait, en tout cas à mon sens, à travers les FARDC bien sûr, participer dans les opérations.
Et donc cette force viendra pour vous, vous proposez que cette force combatte aux côtés des FARDC?
Bien sûr, il est difficile que les FARDC, qu'on lui prive de participer à cette entreprise, parce que les FARDC sont, et les objectifs d'ailleurs. Quels sont les objectifs des FARDC? À mon sens, les objectifs des FARDC, c'est de combattre toutes les forces négatives, qu'elles soient étrangères ou locales. Et si c'est ça l'objectif de la force internationale neutre tel que ça a été décidé à Addis Abeba, pourquoi refuser au FARDC de se joindre à l'opération?
Alors on va prendre deux petites réactions rapidement des auditeurs. Paul Koulou dit ceci: pensez-vous vraiment que cette force pourra soulager notre souffrance ici à l'Est? Il n'y a que les Congolais qui peuvent combattre pour leur pays. pourquoi ne pas organiser notre armée? Lomber Mwamba de Mbujima au Kassai Oriental, pour moi cela ne sert à rien d'ajouter une autre force et qui de plus ne servira que des forces d'interposition entre les FARDC et les agresseurs venus du Rwanda et de l'Ouganda. Augustin Kaindo de Liège en Belgique, exclure le Rwanda, le Burundi, la RDC, l'Ouganda de cette force internationale paraît justifié par le souci de neutralité. Cependant, le format des 4000 hommes semble inopérant au regard des zones à couvrir et des défis à relever. Maître Juvenal, réaction.
Je suis tout à fait. Il dit que c'est pour préserver les caractères de neutralité. Je ne suis pas d'accord avec cet auditeur qui appelle de la Belgique. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, le premier recours, le premier rempart au Congo, s'agissant de la défense, c'est les FARDC. Ce sont les forces armées de la République. Et donc, les caractères neutres, il faut bien qu'on définisse ça. Est-ce que les caractères neutres, ça veut dire que des forces arrivent ici, les Congo étant absent de ça? Moi, je trouve un peu... je ne trouve pas clair cette façon de voir les choses. En fait, c'est mon point de vue.
Merci, Maître Juvenal Mounoubo. Professeur Philippe Biyoya, que faut-il faire pour trouver finalement une solution durable à ce problème de l'Est? Faut-il impliquer la MONUSCO dans ces opérations?
On doit définir exactement ce que l'on veut. D'abord, quand on dit force neutre, ça signifie quoi? Ça signifie une force de paix. C'est ça, en fait. La force de paix qui existe, c'est en fait la MONUSCO. Deuxième chose, si l'on retient la thèse qu'on a été agressé, pour ne parler que du conflit actuel, où le Rwanda et l'Ouganda sont derrière l'M23 contre le gouvernement de Kinshasa, là, c'est à la RDC de décider d'exercer son droit de légitime défense conformément à la Charte des Nations Unies, article 51. Donc, c'est que la RDC doit se défendre. Ces troupes seront là avec des troupes que la RDC doit sélectionner. On ne peut pas demander l'avis de l'agresseur. C'est que là, on ne reconnaît pas la souveraineté de la RDC. De trois, c'est que cette force, la force neutre qui est décidée par la Surgil, n'est pas une force combattante. Parce que si c'est une force combattante, c'est que alors, je crois que mon ami Kambila comprendra pourquoi j'ai dit que ceux qui acceptent qu'on mette une force qui combat, qui mène des opérations militaires, en fait, ce sont des gens qui aiment la guerre. Je pense que nous sommes très fatigués. La RDC ne peut pas à la fois, à chaque épisode, envoyer des troupes pour qu'on ridiculise l'armée, qu'on nous dise que nous sommes faibles, qu'on doit s'organiser. Nous devons, en fait, agir en fonction des moyens que nous avons. Nous voulons la paix, nous ne sommes pas un peuple qui agresse, alors préférons des solutions de paix. Mettons à contribution les Nations Unies et toutes les nations pour que la force que l'on met, le mandat qu'on donnera à la MONUSCO soit un mandat de traquage, pas un mandat de guerre contre les forces étrangères qui sont chez nous. Il y a déjà trop de forces chez nous, à RDC. Pour mettre fin à cette chose-là, il faut que le débat sur ce que nous devons au Rwanda et à l'Ouganda qui ont aidé à un moment ou à un autre la RDC soit des débats publics, comme l'a dit le député. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui ont signé des engagements secrets, si ça existe, se dégagent. Il faut que le Rwanda accepte que ces choses-là, ça doit être normal que nous discutions, nous fassions des débats publics chez nous sur quel type de relations nous devons avoir avec des pays voisins, avec tous ceux qui nous ont aidés, que ce soit l'Angola, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Rwanda, que ce soit le Burundi. C'est nous qui allons payer la facture. Et ça doit être une facture portée par toute la nation. Et l'institution qui doit prendre ses engagements, c'est le Parlement. Il n'y en a pas. Non, il ne faut pas que ce soit des affaires de diplomatie secrète. Parce que c'est ça, en fait, qui complique les choses, qui n'amène pas la clarté. Autre chose, vous allez voir que dans tout ce que l'on fait, on a commencé par les chefs d'État qui ne se sont pas mis d'accord, qui ont envoyé le ministre des Forces. Généralement, dans ces choses, on commence par des techniciens, des commissions techniques qui préparent la chose techniquement et les politiques viennent pour entériner. Donc, il y a une rationalité là qui ne conforme à rien, qui cache, en fait, l'absence de volonté de régler cette question autrement que par des guerres. Donc, ce que j'ai dit, que Kambila n'a pas compris, c'est que nous sommes des analystes depuis 15 ans bientôt, eh bien, on vit des guerres récurrentes. Et il n'y a personne qui échappe à cette logique. Nous voulons sortir de cette logique. Nous voulons des logiques de paix. Alors, engageons-nous vers la paix. Faisons les propositions. Je soutiens le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Je le soutiens à 100% parce que sa démarche est, en fait, celle qui convient. Mais je voudrais que ça soit partagé par l'ensemble du gouvernement. Le ministre de la Défense devrait soutenir ça.
Merci, professeur Biyoya. Jean-Pierre Kambila, on va prendre une réaction pour vous, la dernière réaction pour vous, qui nous vient de Goma, au nord Kivu.
Prince Mulonda depuis Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette force neutre n'a pas de place pour venir ici. Du fait que nous avons une armée, ils pensent toujours aux étrangers, que ces étrangers ne vont pas durer ici. Notre armée est capable de nous défendre et notre armée est négligée par nos autorités. En faisant appel aux forces neutres, c'est se moquer de notre armée. Du fait que ces militaires d'abord seront payés plus cher par rapport aux non-militaires qui sont négligés et qui combattent toujours bien sur les fronts malgré qu'ils sont trahis par nos autorités. La force neutre va prendre beaucoup de temps pour venir ici. Les rebelles auront du temps pour s'organiser, piller avec leurs alliés, faire tout ce qu'ils veulent.
Réaction.
Mais je comprends le souci de mes compatriotes. Ce sont des soucis que je partage parfaitement. Je ne suis pas indifférent à ce qui se passe dans mon pays. J'en souffre autant que quiconque. Mais seulement, ne voulons pas à la fois une chose et son contraire. J'entends le professeur Bioya, c'est pas un débat entre moi et mon ami Bioya, mais quand même, je crois qu'il y a des choses qu'il faut quand même bien cadrer. Comme pour faire la paix, au minimum il faut être deux. C'est comme dans un mariage. Nous ne pouvons pas le dire, la RDC, c'est un pays de paix, nous voulons la paix, alors qu'en face, il y a quelqu'un qui dit, je veux absolument une partie de votre territoire. Et puis nous allons dire, nous voulons la paix, venez, on fait quoi alors? On se couche par terre? On se laisse marcher dessus comme ça? Bon Dieu, j'espère que je ne suis pas né pour être celui qui va trahir le Congo. Autrement, quel est le sens de ma dignité? Si je n'ai pas la capacité de défendre mon pays et surtout son intégrité territoriale. Non, le Congo n'a qu'une politique de paix. Même contre le régime, par rapport au régime contre lequel nous nous sommes battus, par rapport à Mobutu. Mobutu, il a attaqué qui? Joseph Katavubu, ici, il a attaqué qui? Mouzé Laurent de Zé Kabila, il a été prendre le territoire de quel pays? Pourquoi alors le mien, on viendrait le prendre, et puis on me demande à moi, ah non, faut avoir une attitude de paix. Non, ça, je crois que c'est clair et net. Aujourd'hui, ce langage-là n'a pas de place, parce que le Congo n'a attaqué personne. Le Congo n'est pas un pays de guerre, c'est un pays d'homme de paix.
Et vous proposez quoi comme solution finalement?
Je suis d'accord avec la plupart de mes compatriotes qui ont parlé ce soir, qui disent que l'avenir du Congo est entre les mains des Congolais. C'est entre nos mains. C'est à nous à nous préparer, à nous battre pour défendre notre bien. Ça, c'est notre droit. Personne ne viendra nous l'enlever. Bien. Mais aussi, j'aimerais réagir sur une chose. Là aussi, je dis, il faut pas décourager les Congolais. Pourquoi? Quand je dis ça, lorsqu'on dit, ah oui, mais la RDC est exclue de la force neutre. Mais c'est évident. Pourquoi voulez-vous qu'on aide à la force neutre? Pour qu'on soit neutre par rapport à notre propre pays? Mais c'est un non-sens. C'est un non-sens. Où est la ligne? Et dans ce qui a été signé.
C'est la RDC qui est quand même agressée.
Mais oui, alors, et vous voulez qu'on soit dans la force neutre? C'est là où je comprends pas. Et même dans la définition de la force neutre, où est-ce qu'il est dit? Quelle est la ligne qui dit que l'armée congolaise sera désarmée? Elle est où?
Elle fera quoi?
L'armée congolaise est là pour défendre son sol. Si la force neutre est là pour faire sortir nos adversaires, ben elle sera dans son rôle. Mais elle n'est pas là pour défendre notre territoire. Notre territoire, c'est nous qui allons le défendre. Et dans cette force neutre, il n'y a pas
en
la vue du Congo.
Monsieur
parce qu'il ne s'agit pas de faire de FARDC une force neutre. Là, les FARDC ne peuvent pas être neutres. Ils sont là pour défendre la nation congolaise.
Merci.
Et c'est ce que nous faisons.
Merci, monsieur Jean-Pierre Kamila. Maître Juvenal Mounoubo, vos propositions, les solutions pour que la paix finalement revienne à l'Est.
Je crois que le débat national sur la sécurité, c'est une proposition importante. Et je pense que le pouvoir devrait accepter ça, qu'un débat sincère, qu'on analyse en profondeur les problèmes, les causes de ces conflits récurrents, de ces guerres récurrentes à l'Est. Je pense que ça peut nous aider en termes de sortie des crises. Ma formation politique a même un plan de sortie des crises qui avait été présenté à l'époque, alors que le président de mon parti était président de l'Assemblée nationale, mais un plan de sortie des crises qui n'a pas été suivi par beaucoup de gens. Et là, il a préconisé assez qu'il y ait une force justement internationale du genre Artemis. Vous voyez Artemis, par exemple, compagnie Tourisme a apporté une solution. Et je pense que par rapport aux discussions qui sont actuellement en cours à Goma, à Addis Abeba ou à Kampala, il serait mieux qu'on pense, pourquoi pas, à une résolution. Parce que lorsque on se réfère à l'époque, la force Artemis, il y avait une résolution du Conseil de sécurité, si je me rappelle, 1484, et on a vu comment cette force a fait quelque chose d'intéressant.
En conclusion,
il faut un débat sincère sur la sécurité. La sécurité, ce n'est pas une question qui doit demeurer tabou. Il y a des faiblesses dans notre armée, il y a des faiblesses dans notre système de défense. L'opposition, la société civile peut avoir des idées constructives pour une sortie de crise. Il faut dialoguer sur le plan interne. Ce qui n'est pas admissible à ce stade, c'est peut-être des négociations directes avec le M23, mais un débat pour donner au FRDC des capacités des faits qu'il faut, eh bien, je soutiens un débat national.
Merci, Maître Juvénal. Mon nouveau professeur Bioya, en 15 secondes, juste votre conclusion.
Ma conclusion, comme je l'ai dit, c'est un débat national sur ce que nous devons être dans la région avec le voisin. De 2, la RDC doit poursuivre sa démarche diplomatique pour se défendre. De 3, la RDC doit se chercher des alliés et doit se mettre en situation effectivement de défendre ses frontières.
Merci.
Parce que la volonté des autres, c'est de faire la guerre. Là, je
merci
suis d'accord avec Amdinga dans le
développement. Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence.